L'émission sur Radio Évasion. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans LEM, l'émission quotidienne de Radio Évasion qui reçoit une fois par mois, vous le savez, l'association Bretagne Vivante. Aujourd'hui, c'est même un rituel annuel. Les mauvaises langues diront un marronnier. C'est vrai qu'on peut en trouver dans les marronniers, mais aussi dans les chênes, les hêtres, les néfliers, tout ce que notre région peut compter d'arbres, d'arbustes. Qui ça ? Les oiseaux, bien sûr. Vous savez, si vous êtes accroché à nos ondes, que Bretagne Vivante vous propose chaque année, fin janvier, une observation participative des oiseaux des jardins. C'est une opération nationale dans notre région, c'est notamment Bretagne Vivante qui la coordonne. Et bien voilà, on y est pour la 11e fois et on adore ça. C'est la chargée de communication de Bretagne Vivante, Barbara Dem, qui vient nous en parler, avec aussi Tugdual Tancrel, qui est bénévole et ornithologue de Bretagne Vivante. Enfin, je pense. Compteur d'oiseaux depuis toujours. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Non, c'est pas vrai, Tugdual, que vous êtes compteur d'oiseaux.
Si. Bon. Mais depuis toujours.
Non. Voilà. Bon, d'accord. Alors, Barbara, on commence avec vous. Pourquoi est-ce que cette observation est organisée chaque année ? Il faut le rappeler.
Alors, tous les ans, c'est le principe d'une science participative. On récolte un grand nombre de données. Et pour pouvoir analyser ces données, il faut que le protocole soit identique. Parce que sinon, après, on compte, voilà, c'est le principe des choux et des carottes. Hein. Donc, pour avoir les carottes et analyser les mêmes carottes, on propose aux gens de compter le dernier week-end du mois de janvier. Donc, cette année, ça tombe le 28 et le 29. Pendant une heure, dans son jardin, dans un parc, dans un endroit où il y a un peu de nature. L'idée, c'est de se poser pendant une heure et d'observer avec les yeux et les oreilles. Parce que souvent, les oiseaux, on les entend plus qu'on ne les voit. C'est un peu le petit jeu. Donc on se pose pendant une heure, on observe les oiseaux, on essaie de les reconnaître. Ça aussi c'est un jeu parce que parfois c'est pas facile. Mais comme d'habitude, Bretagne Vivante met à la disposition de tous des outils pour aider à l'identification des oiseaux. Donc on observe, on reconnaît les oiseaux, on remplit un petit tableau. Voilà, alors là j'ai vu deux mésanges, là j'ai vu un moineau. La petite astuce, comme d'habitude, on ne fait pas d'addition. Donc si on voit une mésange, puis deux mésanges, puis trois mésanges, on n'additionne pas. On met seulement le nombre d'individus vus en même temps. Donc dans mon exemple, ce serait trois mésanges. Donc pendant une heure, lorsque l'heure est terminée, on fait le bilan. Et on n'oublie pas de nous transmettre les données, ça c'est important, puisqu'on participe à un comptage régional et national. Donc nous, ensuite, les données, on va les analyser, on va aussi les faire monter au niveau national, notamment au Muséum d'Histoire Naturelle. Et on va les analyser donc ensuite pour essayer de comprendre comment se portent les populations d'oiseaux communes, si les populations baissent ou pas, s'il y a des années où on a pu observer des mortalités particulières sur certaines espèces. Et évidemment, avec ces données-là, on va essayer soit d'expliquer pourquoi, et tant qu'à faire, quand il y a des possibilités d'action, et bien tenter d'agir pour protéger au mieux ces petites bêtes.
Oui, parce qu'il y a un volet recueil de données scientifiques, mais il y a un volet sensibilisation, il faut dire ce qui est cette opération.
Ah bah, tout à fait, c'est vraiment un outil aussi pour reconnecter un peu tout le monde aux oiseaux, parce que finalement, on les connaît tous, les oiseaux, on en voit tous les jours. Au moment du confinement, on se souvient de « Oh, il y a des oiseaux en ville, mais ils ont toujours été là, mais on n'avait juste pas le réflexe de lever les yeux ». Donc c'est tout à fait l'objet de ce comptage, c'est vraiment de prendre une heure et d'apprendre à réécouter les oiseaux, apprendre à les reconnaître, à les nommer. Ça c'est vraiment super chouette quand enfin on connaît le nom du petit oiseau qui vient picorer tous les jours à notre fenêtre. Et ça permet aussi de rappeler les bonnes pratiques pour les protéger, ces oiseaux, sur le nourrissage, sur aussi aménager son jardin pour qu'il soit plus accueillant, aménager même au-delà de son jardin les parcs, les villes. Coucou aux maires qui nous écoutent.
Il y
en a plein, donc la biodiversité elle est partout, ça commence par quelque chose de très simple, les oiseaux.
Très bien, et quels sont les résultats alors du comptage de l'année dernière ?
Alors l'année dernière, on avait sur l'ensemble de la Bretagne historique, donc un petit coucou aussi à la Loire-Atlantique, on avait quasiment 6000 observateurs. Donc c'est voilà, tous les ans hein, le chiffre est en hausse, quasiment 80 000 oiseaux qui ont été vus. Donc c'est un chiffre qui est assez important. À peu près 9 espèces d'oiseaux. Ça c'est assez constant. Hein. On a environ 9 espèces différentes dans les oiseaux dans nos jardins. Donc pareil, ouvrez l'œil. Hein, on a un challenge. Au moins 9 oiseaux qu'il faut voir et une moyenne de 26 oiseaux par jardin.
Ouais, quand même. Ça fait.
Ouais.
C'est enfin 26 en nombre d'individus quoi.
C'est alors, ça.
Pas en nombre d'espèces.
Ouais, absolument.
Voilà. Et alors quelles sont les espèces qui arrivent en tête ? C'est un peu toujours les mêmes, hein, je crois, chaque année. Mais...
Tous les ans, notre trio de tête, il n'est pas très changeant. Alors, on a comme d'habitude, en termes d'abondance, on a le moineau, qu'on voit souvent. La mésange bleue et le pinson des arbres. Donc ça, c'est des oiseaux qu'on voit souvent en termes de nombre d'espèces vues dans le jardin. Et puis dans la fréquence, ce qu'on voit le plus souvent, il y a le rouge-gorge. Et puis les deux mésanges, la mésange charbonnière et la mésange bleue. Donc voilà, les rouges-gorges, normalement, on est tous capables d'en voir. C'est pas farouche, ça a la gorge rouge, hein, comme son nom l'indique. Donc normalement, on est tous capables de voir des rouges-gorges. Dans le Finistère, je sais pas, Tancrède, si tu as des spécificités du Finistère.
Ben non, ça correspond.
Ouais, on sait pas.
Ça correspond à ça, hein, puisque ici j'ai les diagrammes là, rouge-gorge familier, mésange charbonnière, merle, mésange bleue, pinson des arbres, moineau domestique.
Alors le moineau, si vous tendez l'oreille, vous pouvez l'entendre. Je suis en train de mettre l'enregistrement de Stanislas Vroza qui est réalisé pour la sonothèque du Muséum d'Histoire Naturelle. Mais on l'entend pas très bien. Je vais vous mettre le rouge-gorge de Fernand de Roussin. On entend bien la cloche.
Ouais.
Ouais.
Ils sont aigus.
Voilà.
Tu le reconnais, Tugduel, c'est bien. C'est oui, bien
mais ça, c'est l'alarme, ça, c'est pas le chant.
Ah ouais. Ah.
Elle est parfois un peu difficile à distinguer de celle, justement, du troglodyte.
Ah.
Il y a des nuances qui permettent de le faire, mais bon.
En tout cas, pour l'observation de ce week-end, il faut quand même avoir un contact visuel. Hein,
si on n'est pas un grand spécialiste à l'oreille, ouais. C'est vrai que c'est pas évident de reconnaître l'oiseau juste à son chant. Certains le sont tout à fait capables, mais c'est vrai que dans l'idéal, c'est quand même mieux d'être sûr de ce qu'on voit. Voilà.
D'accord. Alors, Tugduel Tancrède, qu'est-ce que les résultats, alors pas seulement ceux de cette année, mais des autres années, nous apprennent en général sur les évolutions, l'état des populations de ces oiseaux qui sont des passereaux essentiellement, hein, c'est ça?
Il est reconnu que les passereaux sont plutôt en diminution progressive en général. Et puis, il y a quelques oiseaux particulièrement impactés, on va dire. En particulier, le bouvreuil pivoine, par exemple. Hein, qui est
dommage,
peu...
c'est joli.
Eh oui. Oui, c'est ça. Le chardonneret élégant aussi, qui lui aussi est très joli, qui sont des espèces considérées comme vulnérables. Et puis, il y a le verdier d'Europe, qui était très commun, et puis qui, dans les années, disons, 2016-2018, a été affecté par différentes infections, salmonelles et d'autres parasites, ainsi de suite, de telle sorte qu'il était... On le voit beaucoup moins qu'on le voyait auparavant. Et d'ailleurs, j'ai amené là une courbe qui montre une chute brutale, en fait, compte des observations...
Des verdiers.
Des verdiers, là, entre 2012 et 2022. C'est des documents qui sont disponibles sur le site de Bretagne Vivante, où on voit la chute extrêmement rapide.
Brutale.
Non, brutale, du fait de ces infections.
Alors, on parlera tout à l'heure des raisons de ces infections. C'est notamment lié au nourrissage des oiseaux. On en reparlera. Sur les bouvreuils, on sait pourquoi ils ont...
Alors, on ne sait pas trop précisément pourquoi, parce que comme pour tous les oiseaux, c'est sans doute multifactoriel. Hein. Il y a le changement de... l'habitat habituel qui est plus ou moins perturbé, détruit. Et puis, c'est un oiseau qui aime bien la fraîcheur. Donc, il aura tendance à remonter vers le nord et à abandonner les zones du sud, quoi, globalement.
Ah oui. Là, c'est le changement climatique plutôt qui serait...
Oui aussi, mais, ouais. Mais entre autres, on va dire. Ouais.
Hein,
mais...
Parce que là, il fait froid là, chez nous, là, en ce moment, c'est bon.
Oui, mais enfin, la température globale,
ouais,
elle monte. Par contre, on en voit encore quand on va faire des tours dans les monts d'Arrée, on en entend pas mal dans les monts d'Arrée, alors que par ici, c'est pas très loin quand même, les monts d'Arrée, on en entend beaucoup moins.
Les observations en général dans le Finistère, alors, je ne sais pas si c'est Barbara ou Tugduel, mais elles viennent de quel type de jardin majoritairement
Plutôt urbain, on a fait le point justement avec Tugduel avant de venir. C'est beaucoup dans les villes, hein, Brest, Quimper, Plouzanet, donc on est vraiment en milieu urbain. Après, je ne suis pas tout à fait... Vu la Bretagne, c'est vrai qu'entre un jardin en pleine campagne et un jardin en ville, il risque d'avoir quand même effectivement des différences, mais c'est un comptage qui est quand même de manière générale assez urbain. Donc ça explique aussi pourquoi on voit des oiseaux comme les moineaux, comme le rouge-gorge, comme les mésanges. Si on avait fait un autre protocole, entre guillemets, si on avait vraiment encouragé les citoyens à aller en pleine campagne, on aurait probablement vu autre chose.
Ouais. Mais oui, parce que par exemple, le tarin des aulnes, enfin, je sais pas, l'aulne, pour moi, c'est un arbre qui a besoin d'humidité. Donc ça, on n'en aura pas forcément si on est loin de la rivière, par exemple, si tu dois le...
Ah ben, voilà, au fond de mon jardin, il y a des aulnes.
Bon, ça passe un jardin humide.
Non, il n'y a pas de cours d'eau. Bon, des aulnes, il y en a plein au relais Caruon, là, le long de l'étang du relais, par exemple. Et là, on peut très facilement voir ou entendre des tarins.
Tarin. Alors moi, je ne sais même pas si j'en ai jamais vu un tarin des aulnes, ou alors j'ai confondu peut-être. Ouais. Et qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des oiseaux qui me paraissent un petit peu plus rares aussi. Enfin, vous allez me dire si c'est vrai ou si c'est dans ma tête, mais la citelle torche-peau, par exemple.
Ah non, il y en a au Stanguelar.
Ah ouais.
Alors ça, c'est typiquement, ça fait partie des oiseaux qui... Alors bon, on ne les voit pas souvent, mais parce qu'on n'a juste pas l'œil aguerri. Finalement, la rareté, elle est dans l'œil de l'observateur. Ce qui est rare pour toi ou moi, ce sera probablement pas le cas pour Tugdual parce qu'il est plus aguerri. Mais là, non, la citelle, on en a vu au Stanguelar. Et en fait, c'est un oiseau qui se balade sur le tronc de l'arbre. Donc, elle est toujours à la verticale. D'accord. Et je crois qu'on l'entend plus qu'on ne la voit aussi. C'est plus facile d'avoir l'oreille que l'œil.
Bah, c'est-à-dire que c'est l'oreille qui nous indique où regarder, quoi.
Ah oui,
et finit par la voir.
Je peux pas vous faire écouter. J'ai pas. Ça serait un chant comment reconnaissable, comment pour le décrire.
Comment dire alors là, ça va être difficile.
C'est mélodieux. Non. C'est plutôt mélodieux. C'est pas des petits cris, quoi. Enfin,
si, c'est plutôt.
Non, mais c'est pas grave. C'était non, juste pour savoir.
Sur la sonothèque du muséum. Voilà. Normalement, il y a vraiment accès à tous les chants. Oui. Et puis alors après c'est vraiment un jeu en fait. Là c'est un jeu. On essaye d'écouter l'oiseau. On écoute le chant. On essaye de voir si dans l'environnement on a à peu près le même son. Et puis il faut s'entraîner tous les jours. Hein. C'est un sport. Vraiment c'est un sport.
Ouais. Et Tugdual, vous avez même téléchargé une nouvelle appli, c'est ça, qui permet de reconnaître les chants des oiseaux. On fait écouter à son téléphone.
Je ne l'ai jamais encore utilisé, mais c'est une application qui est gratuite qui s'appelle BirdNet et qui permet de connaître l'oiseau qui chante. Éventuellement, il faut enregistrer son chant et puis ensuite sélectionner une partie du chant, on va dire,
du son,
par le sonagramme, hein, et l'application va proposer une identification.
Donc c'est à partir du graphique sonore de l'enregistrement qu'on peut éventuellement faire correspondre.
On en a dit du bien, donc à tester.
Bon,
mais ça c'est... Voilà.
À tester justement ce week-end en observant les oiseaux des jardins.
Pourquoi pas ? Mais pour revenir sur la citelle, c'est quand même un oiseau qui aime les zones boisées, quoi.
Ah oui.
Donc il y a des jardins où on ne la verra pas parce que ce n'est pas son milieu.
Et donc ce qu'on a le plus de chances d'observer, c'est moineaux, rouge-gorge, mésanges. Mésange. C'est sûr qu'on en verra, quoi.
Oui. Les fauvettes, les pinsons, ça, c'est commun aussi, me semble-t-il.
Ouais. Les pinsons aussi, oui, surtout.
Alors, les étourneaux, les merles aussi, ça on les reconnaît. Les pies, évidemment, ça c'est assez commun et classique. On les connaît tous, on les connaît de vue, du moins.
Mmh.
Oui,
mais d'ailleurs, les étourneaux, à ce propos, alors, il se trouve que nous, à Pont-de-Buis, on a des rassemblements énormes le soir, là, des étourneaux. Imaginons qu'on ait un rassemblement d'étourneaux dans son jardin.
Non.
On en coche combien?
Oh là, c'est
bon. Vous avez le droit de les zapper, ceux-là.
Ah ouais,
voilà.
Ouais, il y a sans doute des années où ils ont été mieux comptés que d'autres. Et donc, dans ce cas-là, ce sont eux qui sont en plus grande abondance, quoi.
Et parce que quand ils se rassemblent comme ça, on sait à peu près combien ils sont.
Ça dépend. Ça peut être plusieurs milliers.
Et quels sont les critères de rassemblement? Là, c'est vraiment une question que je me pose, ça sort un petit peu de notre sujet, mais comment est-ce qu'ils choisissent les endroits où ils vont se rassembler, ces étourneaux?
Si on le savait précisément. Enfin, moi, je n'en sais fichtrement rien. Peut-être que d'autres en savent quelque chose, mais...
Ils cherchent de la tranquillité, a priori. En fait, quand ils vont dans les villes, ils cherchent à fuir les prédateurs et à se protéger du froid. Donc forcément, ils sont ensemble, ils se mettent dans des jeux. Enfin, a priori, je sais qu'ils se mettent dans des arbres où il y a un peu feuillu, quand même.
Oui, c'est ça, oui.
Ils ont des critères très, très terre-à-terre, disons, hein, de la sécurité, de la chaleur, et puis qu'on leur foute la paix. Donc j'imagine que s'il y a beaucoup de bruit, si c'est très animé, ils vont probablement moins choisir cet arbre-là.
Et le nombre, cette masse, c'est notamment pour des questions de sécurité et de chaleur.
Oui,
Les deux.
Enfin, de sécurité, certainement, parce que justement, les nuages d'oiseaux qu'on voit virevoltant, là.
Voilà. Et murmuration, c'est un très joli mot.
Ouais, c'est très beau.
Des nuages qui bougent beaucoup, là, c'est des rassemblements importants. Et en fin de compte, tous ces mouvements-là, c'est pour faire en sorte que l'épervier ou le prédateur ne s'y retrouve pas, quoi. Ça bouge dans tous les sens.
Ah oui, d'accord.
Et l'effet de masse, protège, en fait.
Et quand ils dorment vraiment ou il y a des gardiens en fait, des étourneaux qui font des rondes.
Bah, ils doivent bien se reposer, hein, mais bon, ça fait un tel potin que tout le monde ne dort pas, parce que ça cause beaucoup.
C'est sûr. Et ça, phénomène saisonnier, c'est jusqu'à de quand à quand, en gros, ça commence en novembre, c'est ça, et ça se termine quand?
En octobre, novembre, et puis là, ils vont repartir dans les zones de reproduction au courant du mois de, je sais pas... mars, avril, il n'y aura plus que... Il en restera, parce que les jeunes qui ne sont pas encore en capacité à se reproduire ne vont pas nécessairement faire le trajet pour rien.
D'accord.
Ils vont rester.
D'accord. Et donc, ces étourneaux, est-ce qu'ils reviennent toujours au même endroit, on sait, ça, non? D'une année sur l'autre, non? Ils ont choisi un coin. D'accord. Non, mais c'est vrai, c'était pas prévu, ces questions, mais c'est que c'est tellement impressionnant. C'est vrai que tout à coup... Et d'une manière générale, ces passereaux, ces oiseaux des jardins, ils sont plutôt migrateurs ou plutôt sédentaires, d'ailleurs?
Alors, on va dire qu'ils sont migrateurs partiels, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont sédentaires. Et puis d'autres qui font des migrations, des courtes migrations. Mais l'histoire, c'est le rouge-gorge que vous voyez dans votre jardin. Il est fort à parier que le rouge-gorge que vous voyez l'hiver, c'est peut-être un rouge-gorge qui venait du Royaume-Uni. Et celui qui va être là au printemps, ça ne sera pas lui. Ça sera un autre qui sera venu du sud et qui aura remonté. Voilà. Mais comme... Un rouge-gorge, ça ressemble beaucoup à un rouge-gorge.
Un autre rouge-gorge, voilà. C'est vrai. D'accord. Et donc, alors les raretés qu'on pourrait quand même observer, ça sera le chardonneret élégant, par exemple, c'est ça.
On peut pas dire que ce soit une rareté quand même, hein, parce que là, tu vois, moi j'habite Brest, des chardonnerets élégants en me promenant dans Brest ou autre, j'en entends.
Il y en a d'autres qu'on pourrait observer, mais qui sont peut-être pas dans la plaquette, mais qu'on a des chances d'observer.
Alors ça, c'est possible, mais par définition,
on ne
sait pas trop qui ça sera. Mais on peut prendre l'exemple, il y a 5 ans, je crois, ou 6 ans, enfin bon, il y a quelques années, il y a eu un afflux ça y est, j'ai pu retrouver son... De jaseurs boréaux, c'est des oiseaux qui viennent du nord, quoi. Et il y en avait dans Brest, on en voyait très facilement.
Au gré des migrations, au final, on peut tomber sur des choses, mais ça, c'est la surprise du comptage.
Et alors, si c'est pas sur la plaquette, vous n'avez pas une case vide, là, pour autres, autres observations, d'accord. En étant sûr, évidemment, de ce que c'est.
Tant qu'à faire, s'il y a des raretés, au contraire, ça peut nous intéresser. Et c'est vrai qu'on peut aussi observer une rareté ou quelque chose qui nous a un peu interpellé au-delà du 28 ou du 29. Mm-hmm. Et là, c'est des observations naturalistes, c'est des observations qui intéressent Bretagne Vivante et de manière générale les associations naturalistes. Et il y a un site qui est dédié à recueillir toutes les observations qu'on peut faire sur la faune, qui s'appelle Faune Bretagne. Et là, c'est vraiment le site pour même le rouge-gorge que vous voyez dans votre jardin au mois de février ou de mars ou d'avril, et ça intéresse. Donc c'est vraiment pour ceux qui veulent se prêter au jeu de d'enrichir la connaissance naturaliste par ces données, je les invite à visiter Faune Bretagne et à regarder le nombre d'observations qui sont faites. Et c'est encore une fois, ça reste du jeu, hein, observer la nature, transmettre ses données, partager la connaissance. C'est aussi l'une des missions de Bretagne Vivante.
Oui, puis... Je vois, par exemple, dans mon jardin, où je fais des observations régulières. Si je compte le nombre d'espèces que j'ai pu voir dans le jardin, ça monte à 30. Hein.
D'accord. Très bien.
Donc, c'est intéressant.
Oui, tout à fait, c'est intéressant. Alors, que faire où est-ce qu'on se met pour bien observer, pour avoir une chance d'en voir plus, pour ne pas leur faire peur? Est-ce qu'il y a des horaires qui sont plus propices, etc.?
Habituellement, pour les passereaux, on dit que c'est le matin qu'il faut tenter de les observer. Voilà. Quel endroit, si on a une mangeoire, vaut mieux avoir une bonne vue sur la mangeoire, quoi. Bon, oui. Mais il n'y a pas de loi particulière.
Ouais, sauf une vue panoramique, quoi, je dirais. S'il y a une haie, un arbre, une mangeoire, tant qu'à faire, autant avoir une possibilité de tout voir.
Par Par contre, il faut rester calme, quoi. Il ne faut pas faire de grands gestes, il ne faut pas faire de bruit. Oui. Bon, on peut se déplacer un peu, on peut bouger un peu, mais doucement, sans faire de gestes brusques. Auquel cas, les oiseaux ne seront pas effrayés outre mesure, quoi.
Et est-ce une bonne idée d'avoir des jumelles ou pas ?
Ah oui.
Ouais.
Ah oui, oui. Oui, c'est, je dirais que c'est mieux. On pourrait même dire que c'est presque indispensable. Surtout quand on ne connaît pas bien, quand on a un doute. Là, les jumelles, ça permet de voir des détails quand même. Parce que sur les plaquettes, là, vous voyez, vous avez des dessins d'oiseaux avec des petites flèches ou des petits traits qui vous indiquent des caractéristiques particulières qui permettent plus sûrement d'identifier l'oiseau. Et avec des jumelles, on verra ça.
Par exemple, pourquoi la corneille noire, on a pointé son bec ?
Parce que c'est un gros bec.
Oui, c'est ça. C'est pour ne pas la confondre avec quoi d'autre, corneille ou un corbeau, non ?
C'est ça, exactement. Ouais. En fait, souvent, les indices pour reconnaître les oiseaux, ça va être la forme du bec. Ça va vraiment typiquement entre le moineau et l'accenteur mouché qui se ressemblent beaucoup en termes de plumage. Le moineau va vraiment avoir un bec court et large, alors que l'accenteur, il est long et fin. Donc ça, voilà, c'est vraiment des petits indices quand on hésite. Bon, alors les mésanges, c'est moins compliqué puisque la mésange bleue, elle n'a pas la tête toute foncée, alors que la mésange charbonnière a la tête toute foncée. Donc voilà, c'est des petits indices comme ça. Mais en règle générale, on essaie de... Alors c'est vrai que la forme, souvent on nous parle de forme, mais bon, c'est vrai qu'un passereau, la forme est assez classique, avec la queue qui est un peu basse, le corps qui est plus ou moins important.
Sauf le troglodyte mignon qui a la queue qui herbique, c'est ça.
Effectivement, ça c'est un tout petit oiseau qui a la queue levée. Mais c'est vrai qu'entre une mésange charbonnière et une mésange bleue, bon, je me dis que si elle est à contre-jour et qu'on ne distingue pas ses couleurs, c'est quand même pas facile. Après, l'œil expert, voilà. Mais c'est vrai que si on peut avoir des jumelles ou quelque chose, ou un bon appareil photo, il y a un zoom, pour essayer de capter le plus d'informations possible sur l'oiseau pour être sûr qu'on identifie. Après, si vous débutez, c'est la première fois que vous faites le comptage, amusez-vous d'abord, essayez de récupérer des infos. Mais l'idée, c'est aussi de participer à quelque chose de sympathique, de ludique, de familial, de rigolo dans la nature, de se reconnecter avec ces oiseaux et puis d'ouvrir l'œil au quotidien, en fait.
Oui. Puis on peut avoir des arguments sur la taille. Alors la taille, vous me direz, c'est pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, mais si on connaît, on est à l'habitude de voir un rouge-gorge, on peut se dire, tiens, celui-là, il est plus gros que le rouge-gorge, ou il est de la taille d'un merle, ou des choses comme ça, ça fait avancer.
Ouais. Oui, tout à fait.
On apprend en faisant. C'est ça, on apprend en faisant.
Et si jamais, alors voilà, là, dans la plaquette d'observation, il n'y a pas les oiseaux nocturnes, mais est-ce qu'on pourrait éventuellement, parce que si jamais on observe à la tombée de la nuit, mettons, tout à coup une chouette qui sort un peu en avance, non ? Ça, on ne les met pas dans...
Disons que si on commence à compter à la nuit tombée, on risque de moins voir d'oiseaux et effectivement plus de rapaces. Le principe du comptage, c'est vrai qu'on compte les passereaux, on le disait. Mais si vous voyez une chouette hulotte, une chouette effraie ou n'importe quel rapace, vous pouvez toujours le mentionner dans le comptage. On a la possibilité d'ajouter des oiseaux. Et puis, je vous le disais, aller sur Faune Bretagne et puis mentionner ces rapaces, parce que ça aussi, c'est des données qui nous intéressent. C'est pas si commun. Selon le lieu où vous habitez, où est-ce que vous êtes en ville, à la campagne, s'il y a une ferme, etc. Dans Faune Bretagne, on peut aussi ajouter d'autres informations. Sur l'observation pour la contextualiser, pour essayer de comprendre est-ce que c'est rare, est-ce que c'est pas rare, etc. Donc là, c'est vraiment alimenter en fait la connaissance naturaliste au quotidien. Donc Faune Bretagne, c'est aussi à avoir en tête si vous êtes intéressé par par les observations naturalistes et observer la nature de manière utile, entre guillemets, pour la collectivité.
Et à propos d'utile, Artuc Duhal, qu'est-ce qu'il faut pour que son jardin soit accueillant pour les passereaux, en tout cas ?
Eh bien, il faut qu'il y ait de la diversité botanique, je dirais. Hein, voilà. Et en particulier, par exemple, des haies avec des essences diverses et avoir des essences qui fournissent des fruits.
Eh oui.
Voilà.
Baies, ouais. On parlait du lierre tout à l'heure.
Pas forcément des fruits que nous, on va manger. Hein, ça peut
non,
être,
non, non, des baies. Des baies
qu'est-ce qu'il y a comme arbuste, par exemple, intéressant?
Alors, le lierre, par exemple, voilà, il n'y a même pas besoin de le planter.
Ouais, il vient tout seul.
Faire ça tout seul, oui. Ouais. Voilà. Il y en a d'autres, mais les noms.
Le cotonaster, c'est bien, avec les petites boules rouges là,
oui, voilà.
Qui sont là tout l'hiver.
Voilà, oui, okay. C'est ça. Ou bien du sureau, vous voyez, des choses comme ça.
Et c'est un peu de flore spontanée aussi, des différents niveaux dans le jardin. Ça, c'est, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un jardin accueillant, c'est de la diversité, et puis c'est tout ce qu'on peut offrir à un oiseau, à savoir le gîte et le couvert.
Mais le couvert, attention, alors les mangeoires,
ah, oui.
Qu'est-ce qu'il faut dire sur les mangeoires, qu'on rappelle à chaque fois?
Alors les mangeoires, voilà, la cause de la baisse des verdiers est rapportée au fait que ces oiseaux ont une habitude dans les mangeoires de manger dans la mangeoire, et donc ils y déposent leur fiente.
Ah.
Et si un oiseau est infecté par les salmonelles ou autres parasites, on va dire, eh bien, il va contaminer les graines.
Voilà. Et tous les oiseaux.
Et puis, les oiseaux qui vont consommer ces graines, ben, vont être contaminés eux aussi. Donc, les mangeoires, on dirait plateaux,
c'est pas
plutôt
super, quoi.
À éviter, ouais, ouais. Ou en tout cas
ou
à nettoyer régulièrement. Et si on voit un oiseau mort en dessous, ben il faut
se poser des questions.
Prendre toutes les graines et les mettre à la poubelle, voilà, nettoyer le tout. Donc il vaut mieux avoir des mangeoires verticales, on va dire, tubulaires, voyez.
Ou des boules de graisse avec de la graine, là, c'est ça, non? Ça c'est moins bien, non?
Ça éventuellement, mais enfin bon.
Ils n'ont pas besoin de graisse chez nous les oiseaux. Il fait pas assez froid.
Ouais. Oui, après, mais bon, il faut aussi ne les nourrir que pendant une période.
Ouais.
C'est-à-dire que l'hiver, quand il fait froid, passer le mois de mars, c'est plus la peine. Et notamment les boules de graisse, là, bien, ça va graisser les becs et puis ils vont graisser leurs plumes. Les jeunes oisillons, ils auront du mal à s'envoler. Enfin, c'est pas à faire. Donc, voilà.
C'est bien noté.
Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut juste donner aux oiseaux ce qu'ils mangent en vrai, donc à savoir des graines, des graines de tournesol. Voilà, on évite les aliments trop salés, le
pain,
voilà.
Tout ça.
Donc voilà, le lait, typiquement, on donne pas du lait aux oiseaux, on donne pas du pain, les croissants, etc. Enfin bon.
Ok. Voilà. Et puis sinon, il y a un site internet. Là, je le mettrai sur le site de Radio Évasion où on pourra réécouter cette émission. Merci. Dans un instant, il y aura des végétaux avec Marie Cultive, Flora Armorica. Il y aura aussi